Les voies de service, lundi 12 septembre, la deuxième heure de notre émission et la revue de presse. On a eu une première heure, tout le monde ensemble, agréable. Et là, on va aller dans la partie revue de presse. Mais avant de me rendre à cette revue de presse, j'ai, du lundi au mercredi, le plaisir de travailler avec Jean-Sébastien. Alors, bonjour Jean-Sébastien.
Bonjour Daniel.
Et vous arrivez... Comme, faut pas casser la routine trop, les éphémérides.
Mais non, nous sommes des petites créatures d'habitude, alors
ben oui.
Fidèles à mes habitudes.
Les changements, pas trop.
Le moins possible.
Le moins possible.
Alors, en ce 12 septembre, un doublé aujourd'hui, on souligne la Journée mondiale des programmeurs et développeurs, donc des informaticiens.
Oui.
Dans certains pays, notamment en Russie, on dit que ces informaticiens-là ont une journée de congé. Donc, c'est comme une journée fériée pour eux, mais uniquement pour les programmeurs et développeurs.
Gardons ça.
Et j'ai aussi un événement en lien avec ces informaticiens-là un petit peu plus tard. Et également, Journée internationale des Nations unies pour la coopération Sud-Sud. C'est en lien avec la coopération Nord-Sud pour, évidemment, le développement des pays qui sont en voie de développement.
Ou en émergence.
Exact,
ou
merci.
Oui, en émergence.
Donc, on a rajouté également cette journée-là pour la coopération Sud-Sud, car il y a également des pays qui s'en tirent quand même assez bien, oui, dans le Sud, qui peuvent aider leurs compatriotes. En fait d'événements marquants, en 1909, le chimiste allemand Fritz Hoffmann dépose un brevet pour le premier caoutchouc synthétique, donc découverte du caoutchouc synthétique en 1909. En 1940, à Montignac, en Dordogne, quatre adolescentes découvrent dans la grotte de Lascaux des gravures et peintures vieilles de 17 000 ans.
Oui.
Et c'était en 1940. La trouvaille sera tenue secrète jusqu'à la fin de l'occupation allemande à l'été 1944. Je n'ai jamais visité cette grotte. Mmh. Et vous, Daniel?
Non, pas du tout. On a tous entendu beaucoup parler.
À voir les photos, ça doit être un endroit quand même assez spécial à visiter.
Assez bien visité.
17 000 ans.
Bien préservé en plus.
En 1959, les Soviets lancent une fusée vers la Lune. Qui s'appelait l'Unique 2.
C'était les premiers, parce qu'on attribue toujours aux Américains, mais c'était les Soviétiques.
Les Américains ont été les premiers à envoyer des hommes sur la Lune.
C'est ça.
Mais les Russes ont été les premiers à envoyer un satellite dans l'espace, envoyer un homme
singe.
Dans l'espace, un singe dans l'espace, un chien dans l'espace, et les premiers à envoyer un engin humain sur la Lune. Mm-hmm. Donc, l'Unique 2. Qui était précédé évidemment de l'Unique 1 qui, lui, avait raté sa cible et a poursuivi et doit encore poursuivre, même si
oui,
ça fait déjà plusieurs décennies.
C'est désagrégé ou peut-être c'est désagrégé en cours de route.
Donc, cet engin a atteint la Lune 36 heures après le décollage, mais à l'alunissage, ils ont perdu le contact avec l'engin.
Mmh, mmh.
1970, en Jordanie, après avoir libéré les passagers, des pirates palestiniens font sauter trois avions détournés. Il me semble que la dernière fois que j'étais à ce micro, j'ai parlé également d'avions qui ont été détournés en 1970.
C'était une grosse période
quand
en
même.
1970, oui. C'est à l'époque des détournements d'avions, c'est vrai. Mm-hmm. Oui.
En 1977, Charles Dutoit est nommé chef et directeur artistique de l'Orchestre symphonique de Montréal.
Mm-hmm.
En 1997, l'engin Mars Global Surveyor s'insère en orbite autour de la planète rouge pour la cartographier. Donc, on fait un retour également sur l'actualité du ciel. En 2001, et de là mon lien avec les informaticiens de plus tôt, un adolescent de 15 ans de l'île Bizarre, donc ici même à Montréal, alias Mafia Boy, écope de 8 mois de garde ouverte et 1 an de probation pour piratage informatique. Ça avait fait beaucoup la manchette
ici et
ailleurs. Donc, ce jeune adolescent avait réussi à pirater de très gros sites, notamment Yahoo, qui est plus ou moins l'ancêtre de Google. Disons, l'ancien moteur de recherche qui était populaire dans le temps. Le site de Amazon, le site de Dell, les fabricants d'ordinateurs.
Oui.
eBay. Et la chaîne de nouvelles américaines CNN. Donc, quand même des gros sites qui ont réussi à pirater.
Oui.
Et on parle d'environ 1,5 milliard de dollars en pertes pour ces entreprises-là, vu qu'il y a des failles de sécurité qui ont été démontrées.
Mais peut-être qu'ils se sentaient invulnérables aussi. Il suffit qu'un événement de ce genre arrive pour se dire oh, on va augmenter la sécurité.
Et oui, petite recherche ce matin qui m'a permis de découvrir que Mafia Boy a délaissé son sobriquet de Mafia Boy. Donc, il assume maintenant son vrai nom et il a été, je ne sais pas s'il est encore, mais il a été pendant un temps chroniqueur au Journal de Montréal en sécurité informatique.
Gardez donc ça.
En 2009, plusieurs artistes et politiciens se relaient pour lire des textes pendant 24 heures à l'occasion du Moulin à Parole à Québec.
Oui.
Et on termine ça rapidement avec deux anniversaires. Tout d'abord, de naissance de Sa Majesté le Roi François Ier, qui vécut de 1494 à 1547. Donc
tout un roi.
Oui, le roi de France qui a régné sur la France dès 1515 jusqu'à son décès. Et un décès en 2003 d'un grand homme du monde de la musique, de celui qu'on avait surnommé l'homme en noir, le chanteur américain Johnny Cash.
Ben oui, puis c'est tellement agréable de réentendre de ces chansons. Puis il y a eu une vie qui n'était pas facile. Il a fait de la prison.
Il a connu la guerre, il a vécu en prison, il y a eu la drogue.
Une vie pas nécessairement facile.
Et peut-être qu'on se fera plaisir au cours de l'émission et on entendra une pièce.
Oui, puis il a fait des belles choses aussi avec Willie Nelson. J'ai cédé à la maison avec lui. Ah, c'est excellent. Très, très bien. Grand artiste. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Alors, je commence cette revue de presse avec La Presse de ce lundi 12 septembre. Alors, en première page, on a parlé en fin de semaine du 11 septembre. Bien, il faut se rappeler aussi, malheureusement, c'est le 10e anniversaire des fusillades au Collège Dawson. Et en première page, on a les parents d'Anastasia de Souza. J'essaie de deviner ce qu'elle serait devenue. Et oui, il y a 10 ans, Anastasia de Souza tombait sous les balles de Kim Virgil. Michel Ouimet a rencontré les parents de la victime. Du côté de Stéphanie Gramont, elle a une chronique sur les pilules au rabais dans les hôpitaux. En actualité, oui, on l'a vu, elle était chancelante, les malaises d'Hillary Clinton. Et si un candidat, on se pose la question, et si un candidat mourait subitement, qu'est-il prévu en cas de décès d'un candidat à la présidence? C'est quelque chose. Et au niveau au tennis, on a un nom qui vient de surgir. C'est un Québécois, un jeune Québécois. Félix Auger-Aliassime. J'étais le plus fort et c'est ce jeune Québécois qui a remporté la finale junior des internationaux des États-Unis. Alors, fusillade du Collège Dawson, il y a 10 ans, ça a été le drame et ça s'est déroulé, cet événement, le 13 septembre 2006. Kim Virgil débarque au Collège Dawson lourdement armé. Il tue une élève, Anastasia de Souza, et blesse 19 personnes. Et Michel Ouimet a rencontré les parents de la jeune Anastasia. Elle a aussi parlé à la mère du tueur. Donc, j'ai les parents qui disent que c'était une journée comme les autres. Avant d'aller au travail, Louise de Souza est entrée doucement dans la chambre de sa fille. Je l'ai embrassée en lui disant « Bye, I love you », raconte Louise, et son père Nelson travaillait à la maison. Avant de partir, elle m'a donné un bec en me lançant « Bye, papa », et ils ne l'ont plus jamais revu. On parle de la victime, il y a aussi du côté des parents de celui qui a tué. La vie a arrêté de Parvinder Sandhu, c'est la maman de Kim Virgil. Elle a la même voix au bout du fil, triste, posée, remplie de points d'interrogation. 10 ans après la tragédie de Dawson, la mère du tueur, Kim Virgil, est tourmentée par la même question. Pourquoi son fils, armé jusqu'aux dents, a-t-il tiré sur des élèves? Depuis 2006, Mme Ouimet dit qu'elle lui a parlé 3 fois de brèves conversations téléphoniques où elle répondait à mes questions avec résignation. La première fois, c'était 2 mois après la tragédie. Il y avait des journalistes qui étaient campés pendant 10 jours devant sa maison. C'était une femme traquée, noyée dans une peine trop grande pour une mère. Comment ne pas s'effondrer quand votre fils est un assassin et que son visage tourne en boucle à la télévision? Madame Sandu dit, à l'intérieur de moi, je suis morte. Et du côté du papa, lui, il ne parle pas, il n'en parle pas du tout, du tout, du tout. En plus, elle dit, pour cette troisième fois, pour cette autre fois qu'elle l'a rencontré cette année, Madame Ouimet dit, j'ai raccroché, je me suis demandé comment la mère d'un tueur fou réussissait à vivre. La réponse est évidente, mal, mais très mal. Donc, c'est sous la plume de Michel Ouimet, la rencontre avec les parents d'Anastasia de Souza et la mère de celui qui a tué Anastasia, Madame Parvinder Sandu. Du côté santé, pilule au rabais dans les hôpitaux. Les médicaments coûtent, c'est ce qu'on apprend, coûtent moins cher dans les hôpitaux que dans les pharmacies du Québec. Pouvez-vous croire ça? L'écart de prix qui atteint parfois, écoutez, c'est pas 200, c'est 2000%, laisse deviner de curieuses stratégies marketing de la part des sociétés pharmaceutiques, a découvert notre chroniqueuse Stéphanie Gramont. Et on parle d'un curieux dumping de médicaments à l'hôpital. Et je vais vous donner un exemple. On dit que dans les années 90, les fabricants de lait maternisé avaient une astuce tout simple pour accrocher les nouveau-nés à leurs mamelles. Ils distribuaient leur lait gratuitement dans les hôpitaux, sachant trop bien que les parents continueraient d'acheter la même marque une fois rentrés à la maison. C'est comme ça qu'on attrape les gens, on les attrape à l'hôpital. C'est plus cher à la pharmacie qu'à l'hôpital, donc c'est toute une question de marketing. En comparaison des prix unitaires sur quelques 2000 médicaments et formats, 1200 produits, l'écart est supérieur à 20 %. Il y a 139 produits, écart de 20 à 50 %. Et 741 produits, écart supérieur à 100 %. C'est plus cher à la pharmacie qu'à l'hôpital. Donc, je vous parlais de lait maternisé. C'est un produit parmi tant d'autres qui est moins cher à l'hôpital et plus cher en pharmacie. Le sujet aussi qu'on suit, tout le monde, c'est la course à la direction du Parti québécois. Il y a un premier débat officiel qui a déjà eu lieu. Donc, Cloutier est à l'attaque, Lisée est furieux et Ouellet est ébranlé. Je vous en parle un peu plus loin, un peu plus tard, là, dans la revue de presse. Il y a une entrevue dans la presse avec la ministre du Développement international. On parle de politique d'aide internationale. Le Canada donnera priorité aux femmes et aux filles dans les pays, justement, à l'international. Donc, on s'est aperçu que, justement, 10 mois après son entrée en fonction, Marie-Claude Bibeault dit avoir fait le constat que tout est interrelié en matière d'aide internationale. On s'aperçoit qu'une école d'agriculture très modeste financée par le Canada au Burkina Faso, que la ministre a visitée il y a 2 semaines, en est la parfaite illustration. Elle y a rencontré une femme qui avait récemment suivi la formation de 10 jours en technique de production et d'élevage et qui est donnée là-bas. Et ça a permis, justement, de doubler sa production, d'avoir plus de revenus, de garder ses enfants à l'école et d'éviter un mariage précoce à sa fille. Donc, on s'aperçoit que, justement, il faudra, en politique internationale, surtout en politique d'aide internationale, donner la priorité aux femmes et aux filles à l'avenir. Tiens, je vous laisse avec pour ce dernier point dans la presse, avec une petite question en suspens. Que pensez-vous des écoles publiques ouvertes toute l'année? Hein? Ça ne serait pas une mauvaise idée. Alors, chaque été, on le sait, il y a des jeunes qui profitent d'un encadrement familial optimal pour accroître leurs connaissances, développer de nouvelles compétences, explorer de nouveaux horizons ou vaquer à leurs propres intérêts. Mais à l'opposé, il y a d'autres qui sont laissés à eux-mêmes. Ils vagabondent sans ressources dans leur quartier en cherchant comment occuper tout ce temps dont ils disposent. Ainsi, 2 mois de vacances scolaires peuvent être salutaires pour certains, mais ennuyeux, voire néfastes pour d'autres. Alors moi, je vous pose la question, qu'en pensez-vous des écoles publiques ouvertes toute l'année?
La pièce Zénith de l'auteur, compositeur, interprète Luc Vallière, et c'est une nouveauté.
Et de cette nouveauté, je vais faire la revue de presse du journal Le Devoir. Alors, en première page, on y parle de protection de l'eau potable à Québec. Le CMQ s'apprête à assouplir le règlement. On voit une photo de Mme Clinton avec verre fumé et on parle de présidentielle américaine. C'est un week-end éprouvant pour Hillary Clinton. Entente entre l'État et Uber, les chauffeurs de taxi se tournent maintenant vers la justice. Et un retour sur le 11 septembre, 15 ans plus tard, les États-Unis ont marqué hier, dimanche, dans le recueillement et les appels à l'unité lors de ce 15e anniversaire des attentats du 11 septembre à Ground Zero à New York, où justement il y avait près de 3000 personnes qui avaient trouvé la mort. La révolution des super infirmières attend son financement. C'est ce qui fait la une, entre autres. Premier débat officiel pour la chefferie du PQ. Indépendance, les plans s'entrechoquent. Nelly à cœur ouvert. On fait un petit tour du côté du justement du Festival international du film de Toronto. Il y a un nom qu'on doit retenir dans le domaine du sport. Il s'agit de Félix Auger-Aliassime, Québécois, qui remporte le volet junior des internationaux des États-Unis. Et on y parle aussi en actualité des examens de conduite. Québec cherche des solutions pour les réfugiés. Alors, du côté de la révolution des super infirmières attend son financement, surtout qu'on parle que la population est vieillissante et puis qu'on va avoir besoin de leur aide. Les infirmières praticiennes spécialisées pourront bientôt exercer en oncologie, dans le domaine du cancer et en pédiatrie notamment. Les universités en sont à peaufiner une refonte complète des programmes de formation pour accueillir des nouvelles cohortes dès l'automne 2017. Québec leur a aussi fixé des cibles d'inscription pour remplir la promesse libérale de former 2000 infirmières spécialisées, praticiennes. Mais évidemment, on parle que dans tout ça, c'est beau. On voudrait en avoir 2000 en 10 ans. Mais encore là, l'argent pour financer cette révolution dans le monde de la super infirmière tarde. En chiffres, attendez un peu que je vous trouve. On a des infirmières praticiennes spécialisées qui sont en exercice depuis le 1er septembre 2016. Peut-être que vous avez eu l'occasion d'en rencontrer. En première ligne, il y en a 311. En cardiologie, 34. En néonatologie, 21 infirmières. Et en néphrologie, quand on parle des reins, il y en a 15. C'est le premier débat officiel pour la chefferie du PQ. Indépendance, les plans s'entrechoquent. Le plan d'accession à l'indépendance d'Alexandre Cloutier provoquera un traumatisme dont le Parti québécois peinera à se remettre avant le prochain rendez-vous électoral, a prédit Jean-François Lisée lors du premier débat officiel houleux entre les candidats à la direction du PQ dimanche à Sherbrooke. Alors, s'il est élu chef du PQ, M. Cloutier recommandera aux délégués au printemps 2018 de tenir ou de ne pas tenir un référendum sur l'indépendance du Québec dans un premier mandat du PQ, soit entre 2018 et 2022. Marijuana. Les banques prennent leur distance. La Banque Scotia et la Banque Royale du Canada renoncent à fournir des comptes à des entreprises liées au secteur du cannabis, obligeant certains propriétaires à trouver une solution de rechange. On va en vacances à Cuba, mais là, il y a Philippe Couillard, lui, qui va à Cuba pour tisser des liens. C'est l'ouverture économique qui intéresse les entreprises québécoises. Alors, il va se rendre cette semaine à Cuba dans le cadre d'une mission commerciale, dans l'espoir que le Québec puisse profiter de la relance économique que laisse entrevoir le dégel des relations, justement, diplomatiques entre l'île communiste et les États-Unis. Il y a une quarantaine de représentants d'entreprises qui vont participer à cette mission commerciale organisée par Export Québec. On se rappelle qu'il n'y a pas longtemps, un vélo blanc a été installé dans le quartier Rosemont pour rendre hommage à la cycliste Justine Charland-Saint-Amour qui est décédée le 22 août dernier à la suite d'une collision à une collision avec un camion. À ce jour, aucun rapport du coroner n'a été produit car un délai de 11 mois est nécessaire pour colliger et analyser toutes les informations pour la rédaction du rapport. Justement, c'est pour vous parler de ce rapport dont, que j'ai retenu cet article. On y dit que le port du casque revient de temps en temps dans les rapports des coronaires. Et bien qu'il arrive qu'il soit cité comme un élément de protection essentiel qui aurait pu sauver la victime, la plupart des rapports, là, je vous parle des rapports en général des coronaires, la plupart des rapports indiquent plutôt que ce dernier n'aurait finalement pas été d'un grand secours. Même quand le casque aurait pu être utile, bien souvent il n'aurait pas pu empêcher la collision, note le docteur Jean Brochu du bureau du coroner. Il limite peut-être l'impact du traumatisme crânien, mais sans des aménagements plus sécuritaires, il n'est pratiquement d'aucun secours. Alors, des chiffres maintenant, 11,7, c'est le nombre moyen de mois nécessaires dont ont besoin les coronaires pour recueillir et analyser toutes les informations pertinentes dans la rédaction d'un rapport. 100 est le nombre de cyclistes ayant perdu la vie sur les routes du Québec à la suite de collisions entre 2008 et 2013. Sur ce nombre, près du quart a eu lieu dans les rues de la métropole. Et 50 % est la proportion de décès survenus à des intersections. Uber, les quelques 200 chauffeurs et propriétaires en colère se sont réunis dimanche au centre Haïtio d'Haïti, Canada, la perle retrouvée à Montréal. Et puis, Uber, l'industrie du taxi se tourne vers la cour. En colère, les membres n'écartent pas le recours à la grève. Et plusieurs en voulaient aussi à Alexandre Taillefer, dans ces gens qui détient Alexandre Taillefer, 40 % de la part de marché du taxi montréalais avec les flottes de Théo Taxi, Taxi Diamond et Taxi Hochelaga, et qui a salué, lui, l'entente intervenue avec Uber, la jugeant raisonnable. D'ailleurs, Alexandre Taillefer a indiqué que les chauffeurs qui perturberaient le service seraient sanctionnés. Et le Bloc québécois rend hommage à Gilles Duceppe, et c'est aujourd'hui à Montréal que ça aura lieu. Et c'est ainsi que se termine justement la revue de presse de cette première partie du journal Le Devoir.
Places I'll remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments. With lovers and friends, I still can recall. Some are dead and some are living. In my life, I've loved them all. But of all these friends and lovers, there is no one compares with you, and these memories lose their meaning when I think of love as something new. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before, I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. Affection for people and things that went before. I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more.
Magnifique pièce In My Life, écrite par Lennon et McCartney et reprise ici par Johnny Cash sur son album American Four, dernier album qu'il a enregistré, en fait dernier album qui est paru mm-hmm. avant son décès, c'est paru en 2002, album qui a mérité un Grammy pour album de musique contemporaine de l'année. Et petite anecdote avec cet album-là, M. Cash était dans ses derniers mois, derniers instants de vie. Et c'est une série de 6 albums qu'il a enregistrés durant ses dernières années. Et vers la fin, il était rendu assez faible. Dit-on qu'il aurait enregistré plusieurs pièces étant couché sur son dos, dans son lit. Donc on entend cette voix qui est fatiguée, cette voix qui est sincère, mais cette voix qui est un tout petit peu faible, mais ô combien agréable à écouter.
Beau clin d'œil. On va aller faire un petit tour du côté du Journal de Montréal. En première page, on y parle d'une subvention de 250 000 $ et ce, sans vérification. Québec aide un entrepreneur cité dans les Panama Papers. Je vous en dis un peu plus long dans quelques instants. Tout un exploit au US Open, partout on en parle à la radio, un peu partout, et même ici, au voie de service. Tout un exploit pour Félix Auger-Aliassime, qui est devenu le premier Québécois à décrocher le titre junior des internationaux de tennis des États-Unis. Il a facilement disposé du Serbe Miomir Kecmanovic en 2 manches de 6-3 et 6-0. Et du côté de Toronto, c'est les festivals, le Festival des films à Toronto. Et Toronto est charmé par Falardeau. Puis on parle nutrition avec Isabelle Liot, les meilleures céréales pour vos enfants. Vous avez dû avoir le toupet tout croche en fin de semaine parce qu'il y a eu des vents, énormément de vents hier. J'en ai pas beaucoup entendu parler autour de moi, mais je vous en parle. Le vent qui fait des siennes, et on le rapporte justement dans le Journal de Montréal, des rafales qui ont atteint plus de 70 km/h dans plusieurs villes du Québec. Des vents violents qui ont causé évidemment des déracinements d'arbres, de plusieurs arbres. Et il y a eu, on dit qu'il y a eu des gens qui ont eu des pannes d'électricité. Peut-être que chez vous, ça a été le cas. Alors, hier soir, il y avait 17 000 foyers qui étaient toujours privés d'électricité, alors qu'on en dénombrait 66 000 en avant-midi hier dimanche. Subvention, un partenaire au parcours trouble pour le gouvernement. Le Libérien Ethelbert Cooper figure parmi dans la liste des Panama Papers et il est aussi dans une liste d'individus qui auraient joué un rôle dans la guerre civile de ce pays d'Afrique du Libéria. Qu'à cela ne tienne, Québec lui a accordé une subvention de 250 000 $ pour étudier la faisabilité d'une usine de fer à Bécancour sans fer de vérification. Et toujours dans le Journal de Montréal, on commémoration justement du 11 septembre. Appel à l'unité pour les 15 ans du 11 septembre. Le président Barack Obama a notamment affirmé que la force de l'Amérique réside dans sa diversité. Et en grosses lettres et en heures et en secondes, on fait on défile les événements et on titre « Deux heures qui ont changé le monde ». Il y a vous avez remarqué, c'est sur des cônes oranges, et vous avez sûrement remarqué qu'il y a des travaux, entre autres à l'échangeur Turcot. Ben, on s'inquiète aussi de la qualité de l'air. Le taux de particules fines autour de l'échangeur Turcot a été anormalement élevé à 10 reprises depuis le début de l'année, vient-on d'apprendre justement. Alors, il y a des gens qui en souffrent dans le voisinage, allergies, les petites pompes, etc. Donc, qualité de l'air inquiétante à l'échangeur Turcot. Politique maintenant, Lisée et Cloutier donnent le ton. Un second débat dans le cadre de la course à la chefferie du PQ, marqué par les répliques incisives, et ça se passait où? À Sherbrooke. L'affrontement entre Alexandre Cloutier et Jean-François Lisée a donné le ton au second débat de la course à la direction du Parti québécois, où les échanges incisifs se sont multipliés. Et on se pose la question, sous la plume de Charles Lecavalier, est-ce qu'il y aurait une crise au PQ? Alors, qu'est-ce qui arrive si tu recommandes de ne pas faire de référendum et que tu perds ton vote de demander Monsieur Lisée? De quoi tu vas avoir l'air en débat avec Philippe Couillard? Des questions qu'il a posées à Monsieur Alexandre Cloutier. Monsieur Lisée qui propose d'attendre un deuxième mandat pour faire un référendum, s'en est aussi pris à Martine Ouellet, pressé d'en faire un le plus vite possible. Il ne faut pas prendre ses rêves pour la réalité, de rétorquer Monsieur Jean-François Lisée. Du côté de Québec, il y a les autobus électriques qui sont de plus en plus populaires. Les autobus scolaires électriques gagnent en popularité puisqu'on en comptera une cinquantaine cette année sur les routes de la province, soit 4 fois plus que l'an dernier. Le tout premier véhicule de ce type à Québec transporte une centaine d'élèves depuis la rentrée. La commission scolaire de la capitale a dû ajouter cette année 2 nouveaux trajets d'autobus à Val-Bélair et à Loretteville en raison de l'augmentation du nombre d'élèves dans ce secteur. Les autobus scolaires électriques sont en hausse et gagnent en popularité aux quatre coins de la province puisqu'ils seront 4 fois plus nombreux cette année par rapport à l'an dernier. Et puis en chiffres, l'autonomie de... Parce qu'on parle, quand on parle d'électricité, d'automobile et d'autobus, on se pose la question, c'est quoi l'autonomie? L'autonomie est de 90 à 150 km. La réduction d'environ 23 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre par année à comparer à un autobus standard, donc c'est quand même avantageux. L'autobus scolaire, contrairement aux autobus scolaires, l'autobus scolaire électrique, contrairement à l'autobus scolaire standard que l'on connaît tous, il est très silencieux, si bien que des signaux sonores semblables à ceux du métro de Montréal ont été ajoutés pour annoncer justement l'arrivée et le départ de l'autobus. Le véhicule a été testé en Abitibi au lac Saint-Jean dans des conditions difficiles lors de journées très froides en hiver et dans des côtes très abruptes, et le coût de ce type d'autobus est de 285 000 $. Donc, on transporte des étudiants, puis entre 2 voyages d'étudiants, on peut-être transporter des gens qui vont aller visiter des endroits un peu partout. Donc, vous allez tous, moi, comme n'importe qui, un jour faire un petit tour en autobus orange électrique. Danny Zampini a payé 30 000 $ ce convoyeur. On voit là, en photo un convoyeur qui lui évite de devoir maîtriser à la main les agneaux à saigner. Bien là, écoutez, c'est qu'il y a l'abattage maison est toujours permis malgré une nouvelle loi. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il va avoir, les musulmans fêtent aujourd'hui l'Aïd al-Adha, aux fêtes du mouton plus communément, quoi. Une importante célébration où un agneau est sacrifié en guise d'offrande. S'ils se rendent par centaines dans les abattoirs de la province pour un animal, rien ne les empêche non plus de le faire eux-mêmes. Puis Danny Zampini va abattre 40 agneaux à l'heure ces 3 prochains jours pour fournir ses quelques 1200 clients. L'absence de grève des taxis crée la grogne, écrit Marie-Christine Trottier dans le Journal de Montréal. Des chauffeurs furieux après une assemblée, déçus d'une grève, qu'une grève des taxis n'ait pas été prononcée lors de leur assemblée hier. Certains chauffeurs croient qu'il s'agit de la seule façon de faire annuler le projet pilote avec Uber. Des pro-pitbull prennent encore Coderre à partie. Les protestataires estiment notamment que la définition du type de chien pitbull est floue. Si le règlement est adopté le 26 septembre, les chiens dangereux et les nouveaux chiens de type pitbull seront interdits sur tout le territoire de la ville de Montréal. Les propriétaires actuels de ce type de chien auront l'obligation de demander un permis spécial de garder d'ici le 31 décembre 2016 au risque de ne plus pouvoir garder leur chien au 1er janvier 2017. Chefferie du PQ, parce qu'on est en direction pour un nouveau chef. Alors, plus d'argent, plus de femmes, plus d'argent. Les partis politiques qui feront élire au moins 40 % de femmes aux élections obtiendront plus d'argent, promet l'aspirant chef péquiste Alexandre Cloutier. Sujet un petit peu plus léger, hein? Ça nous ferait peut-être un peu de bien. Sujet léger, quasiment 11h moins quart, on a quasiment le goût de manger, on commence à avoir une petite fringale, qu'en pensez-vous? Je vais vous parler de patates frites. Ah, c'est pas bête comme sujet, ça. Écoutez, c'est dans le Journal de Montréal de samedi, puis j'ai trouvé ça assez sympathique et léger. Bien, léger. Lorsqu'on parle de patates frites, c'est pas nécessairement léger, mais ça nous rend le cœur léger. C'est un film sur les roulottes à patates, et c'est le réalisateur d'Esprit de cantine qui a visité des dizaines de casse-croûtes cet été. C'est qui, ce réalisateur? Il s'agit de Nicolas Paquet. Alors, c'est un cinéaste du Bas-Saint-Laurent qui a visité cet été des dizaines de casse-croûtes de la province dans le but de présenter l'univers insolite des cantines dans un documentaire, justement. Nicolas Paquet a fait bien des kilomètres et a mangé beaucoup de poutine cet été pour s'imprégner de l'esprit des lieux de dizaines de roulottes à patates de villages au Québec. Peut-être que vous avez fait la même chose, peut-être que vous l'avez rencontré, peut-être, on ne sait jamais. J'ai rencontré des créateurs d'ambiance, des personnages qui animent une place. Et à l'intérieur d'une cantine, c'est comme une pièce de théâtre. Chacun a son rôle. Il a pu découvrir qu'il s'agissait d'un milieu grandement géré par des femmes qui aiment le monde, où se côtoient autant de gens sur le chômage que de gérants de caisses populaires. Il y a aussi, parce qu'on parle de région, tout le monde aime les patates frites, dit-il, et en général, on est tellement compartimenté, mais pas dans les cantines. La poutine passe la frontière des classes. Hein? On est moins... Alors, les cantiniers, surtout des cantinières, lui ont raconté leur quotidien qui se déroule l'été 7 jours sur 7. À Saint-Alexandre de Kamouraska, les habitués de la cantine chez Mimi s'inquiètent du sort de la propriétaire si elle n'ouvre pas à 10 heures bien pile le matin. À Tadoussac, durant le festival de la chanson, c'est en taxi poutine qu'on va chercher les festivaliers pour les amener manger à la cantine. C'est tout un univers. Il y montrera aussi les coulisses avec des employés qui épuisés à la fin de l'été, mais qui ont tissé des liens qui font qu'ils reviendront sans hésiter l'été suivant. Plus l'été avance, plus les blagues fusent de partout. On dit que c'est un job qui est difficile, mais il a croisé des gens qui travaillent depuis 9 ans, 10 ans à la même cantine et sont contents de recommencer chaque début de saison. Le réalisateur s'est questionné durant ses tournages à savoir si les cantines typiquement québécoises étaient menacées. Ben là, on a des food trucks, fait que donc les camions qui... c'est un peu les pendants. À mon avis, Nicolas Paquet dit, il va toujours y avoir des casse-croûtes, c'est ancré dans nos traditions estivales, mais le look des cantines disparaît peu à peu. Les propriétaires doivent rénover et on est passé des couleurs blanches au revêtement brun. Ça peut paraître anodin, mais ça perd sa personnalité. Les menaces sont également très diverses. Les routes, voyez-vous des détails comme ça? Il y a des routes qu'on dévie, hein, le progrès qu'on dit, la concurrence des chaînes de restauration rapide, puis il y a l'épuisement, aussi l'épuisement probablement du personnel, et il y a aussi la rentabilité. Alors, ça fait partie de nos traditions. Tant que ça reste ces cantines-là sur le bord du chemin, sur le bord de la route, quand on roule vers les différentes régions, c'est tellement bon, ces bonnes pommes de terre, surtout quand l'huile est... Les pommes de terre sont faites maison, puis coupées. Est-ce que vous en avez déjà fait, Jean-Sébastien, des pommes de terre, vous, des patates frites, dans vos emplois de jeune?
Non, je n'ai jamais été préposé aux patates.
Okay,
je n'ai jamais travaillé dans l'alimentation.
Vous n'avez jamais? OK. Ben, les patates frites, moi, je me rappelle, pour ceux qui l'ont fait, hein, vous vous souvenez de la machine, bon, on faisait des patates frites, puis ça roulait, c'était agréable. Alors, vous allez avoir l'occasion, on va vous en parler quand ça va sortir, ce film de Nicolas Paquet, un film sur les roulottes à patates. Intéressant les noms de famille. Pour ceux et celles qui se sont mariés, pour celles qui se sont mariées plutôt, votre nom de famille, est-ce que vous avez conservé votre nom de famille à la naissance, le nom de votre père, ou encore avez-vous troqué votre nom de famille à la naissance pour celui de votre conjoint? Écoutez, aux États-Unis, c'est particulier. Qui est Anne Holton? Est-ce que vous savez c'est qui? Ah, ben moi, je viens de l'apprendre ce matin. Je vous l'apprends tout de suite. Vous n'en avez probablement aucune idée. C'est la femme de Tim Kaine, qui, lui, est colistier d'Hillary Clinton. Bien que mariée avec lui depuis plus de 30 ans et mère de ses 3 enfants, elle ne s'appelle pas Madame Kaine pour autant. Si les démocrates gagnent l'élection présidentielle américaine du 8 novembre, elle sera la première femme de vice-président ou de président des États-Unis à garder son nom de naissance. À l'exception particulière d'Eleanor Roosevelt, la femme du président de Franklin Delano Roosevelt, née elle-même Roosevelt. Donc, elle avait gardé son nom de jeune fille. En politique, qu'une femme porte son nom à elle est extrêmement rare, note Donald Cuccioletta, chercheur associé à la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques. Même dans la société américaine, ce n'est pas un courant majoritaire. C'est un autre plafond de verre qui va casser. Déjà, Michelle Obama est devenue la première femme, la première dame afro-américaine de l'histoire, tandis que Jill Biden est la première épouse de vice-président à occuper un emploi rémunéré permanent, a noté récemment The Washington Post, mais elles l'ont fait sous le nom de leur mari. De 80 à 85 % des Américaines adoptent le nom de leur mari. Aux États-Unis, ce n'est pas commun pour les femmes de garder leur nom de naissance après leur mariage, et ce l'était probablement encore moins quand Anne Holton s'est mariée, confirme Deborah Anthony, professeure associée de droit à l'Université d'Illinois à Springfield. Seul un petit pourcentage, qu'on estime à 7 à 10 % des femmes, qui n'apportent aucun changement à leur nom en se mariant. C'est pas beaucoup, ça. Environ 80-85 % des Américaines prennent carrément le nom de leur tendre moitié. Les autres, elles, utilisent les deux noms ou gardent leur nom de naissance au travail et utilisent celui de femme mariée ailleurs. Donc, c'est une petite proportion, c'est 7 à 10 % de ces femmes. Depuis 81, ici, on se rapproche au Québec. Le Québec ne permet pas aux femmes de prendre le nom de leur mari depuis 81. Cela n'empêche pas l'épouse du premier ministre canadien Justin Trudeau d'être présentée comme Sophie Grégoire Trudeau sur le site Internet du Parti libéral du Canada. Un usage social pas légal du célèbre patronyme de son mari. Les Américaines, elles, ont davantage tendance à garder leur nom si, lors des noces, elles ont un diplôme d'études supérieures, une carrière établie, un âge plus avancé, des enfants d'union précédente, etc. Toutefois, même parmi les femmes titulaires d'un doctorat, seule une minorité garde son nom, environ 1 sur 3, précise Mme Anthony. On revient à Mme Holton. Elle est la fille d'un gouverneur de Virginie, Linwood Holton. Anne Holton est avocate et juge et elle a rencontré son mari à l'Université de Harvard. Elle était ministre de l'Éducation de Virginie jusqu'à ce que Tim Kaine soit choisi comme colistier en juillet dernier. Le fait qu'elle garde son nom est significatif, commande Karine Prémont, professeure adjointe à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Même, elle dit, Mme Prémont, ça démontre une volonté de dire qu'Hillary Clinton n'est pas une aberration de la nature, que les femmes prennent leur place, qu'elles sont actives, capables d'avoir des carrières indépendamment de leur mari. Même, on parle de Mme Clinton, même si Hillary Clinton, qui avait gardé son nom, Rod Ham, en épousant Bill en 1975, a ensuite cédé se présentant successivement comme Hillary Rodham Clinton, puis Clinton tout court. Fait amusant, Ivanka Trump, la fille du candidat républicain à la Maison-Blanche Donald Trump, a quant à elle gardé son nom après son mariage en 2009. Est-ce que ça va avoir un impact sur la campagne? Est-ce que le nom d'Ann Holton pourrait-il nuire à la campagne démocrate? Je ne pense pas que ça ait un impact, de répondre Mme Anthony, en partie parce que le candidat à la vice-présidence et son épouse ou époux sont moins scrutés et critiqués à propos de détails que les candidats à la présidence. Bien qu'il y ait encore des opinions négatives envers les femmes qui gardent leur nom de naissance, je crois aussi que ça devient de plus en plus acceptable. Il reste que le site Internet officiel du sénateur Tim Kaine présente sa femme comme étant simplement Anne, sans nom de famille. Ce serait une habile façon justement d'éviter la controverse. Ça prouve que les femmes ont encore beaucoup de chemin à faire aux États-Unis. Ce n'est pas parce que Mme Clinton se présente à la présidence que tout est réglé, au contraire. Surtout qu'on entre dans une vague d'ultra-conservatisme avec les deux candidats, selon mon analyse. Et il s'agit ici de l'analyse de... Attendez, je vais vous trouver le nom. C'est plus haut dans mon article de Marie Allard de La Presse. Donc, pour conclure, tout ce qui peut faire avancer la cause de l'égalité homme-femme, comme porter son propre nom, à ce moment-là, devient important. Je tenais à vous en parler parce que quand on regarde des photos, qu'on parle d'événements, on a parlé du 11 septembre, il y a Sophie Durocher dans le Journal de Montréal qui en parle, mais d'une façon intéressante. Qui a peur de l'homme qui tombe? Je ne sais pas si on vous a expliqué, qu'on vous a décrit l'image de cet homme qui tombait, je vous en parle. Alors hier, pour souligner les 15 ans du 11 septembre 2001, on a vu toutes sortes d'images. Les avions qui entrent dans les tours qui s'effondrent, les piétons recouverts de cendres, on a dû vous en parler, vous décrire la scène, on l'a vu aussi à la télévision. Mais il y a une image qu'on n'a pas vue parce qu'elle est devenue taboue aux États-Unis. C'est la photo de l'homme qui tombe, de Falling Man. Cette photo prise par Richard Drew de la presse Associated Press montre un homme qui a sauté d'un des étages du gratte-ciel et il va vers sa mort, mais semble voler. Cette photo a été publiée dans l'édition du 12 septembre 2001, mais à cause du tollé qu'elle a soulevé, elle est très rarement montrée. Comme si, en oubliant que cette photo existe, on oubliait ce qu'il s'est vraiment passé ce jour-là. Dans une entrevue au magazine Time, le photographe Richard Drew raconte que c'est une image calme, presque sereine. On n'y voit pas de sang, pas de violence. Mais les gens y réagissent parce qu'ils s'y sentent reliés. On sent qu'on aurait pu être dans la même situation et qu'on aurait sûrement fait le même choix. C'est vrai, quand on voit que la tour s'écroule sous nous. Et comme il le rappelle, c'est la seule photo de cette journée qui montre quelqu'un qui est mort. Selon les estimations, entre 60 et 200 personnes se seraient jetées du haut des tours. Un suicide de masse. Pourtant, on ne veut pas le savoir et on ne veut pas le voir non plus. C'était sous la plume de Sophie Durocher dans le Journal de Montréal de hier. Alors, pour compléter, pour une note un peu plus légère, hein, écoutez, une famille qui bouge, c'est dans la presse aujourd'hui, dans la partie pause avec Catherine Hanfield. On présente une famille deux langues. Il s'agit de Carla Carpio et de Pierre-Luc Gibault et de leurs enfants Christophe, Miguela et Mathias. Alors, une famille qui bouge, c'est une famille deux langues. Madame est née aux Philippines et elle a grandi à Vancouver. Carla Carpio a posé ses valises au Québec en 2005 pour un stage à Sainte-Anne-de-Bellevue. L'année suivante, dans un party sur le plateau, elle a rencontré Pierre-Luc Gibault, qui jouait de la guitare ce soir-là. Et le charme a opéré. Et 10 ans plus tard, ben, ils sont parents de 3 enfants, Christophe, Miguela et Mathias. Ils sont actifs. Oui, ben, ils sont actifs. Tout ce qu'ils peuvent faire, ils le font à vélo, indique Pierre-Luc, et qui va porter les enfants à la garderie. Carla, qui travaille en administration au Collège Champlain, elle joue au volleyball. Et le week-end, la famille s'active. Chalet, festival, camping, randonnée, raquette. On essaie de faire tout ce qu'on faisait quand on n'avait pas d'enfants, mais de façon moins intense, à un niveau différent. C'est rafraîchissant de lire cet article, cette histoire de famille. Une petite famille qui bouge, c'est quand même pas désagréable. C'est ça, toute note légère que je termine cette partie, cette première heure de la revue de presse, justement, aux voies de service en ce lundi 12 septembre.
Bien entendre Mademoiselle Fizz avec sa nouveauté à Fleur de corps sur les ondes de Canal M.
la revue de presse internationale avec une grande question que je pose et que la presse pose. Vers la présidentielle 2016, la grande question est si un candidat mourrait subitement. Hein? Parce que Hillary Clinton a été victime d'un malaise hier matin à New York alors qu'elle assistait à la cérémonie de commémoration des attentats du 11 septembre 2001. Et, qu'est-ce qui se passerait? La Constitution des États-Unis ne prévoit rien à cet effet et il n'y a pas de précédent. Chacun des partis a ses procédures en cas de décès ou de désistement. Selon le moment où le décès surviendrait, il y a plusieurs cas de figure, explique Karine Prémont, directrice adjointe de l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand. De son côté, le Congrès peut proposer et voter une loi afin de repousser la date de l'élection. Le 11 septembre, 15 ans plus tard, la mémoire en morceaux, à la suite des attaques perpétrées à New York le 11 septembre 2001, des reliques associées aux tours jumelles détruites ont été entreposées et conservées dans l'immense hangar numéro 17 de l'aéroport JFK de New York. Or, il y a quelques années, les responsables des lieux ont amorcé une distribution tous azimuts des quelques 2500 objets qui s'y trouvaient un peu à l'image des sections du mur de Berlin. Donc, on peut retrouver à certains endroits le camion d'incendie, des poutres tordues, des reliques de voitures de police, du métal carbonisé, des antennes et des moteurs d'ascenseur. Et du côté, justement, du métal carbonisé, on peut en retrouver. Le Canada en possède une douzaine de pièces qui proviennent des ruines, dont une qui se trouve au Musée des pompiers de Montréal. Et on en trouve aussi dans la ville de Kitchener, Nanaimo, Calgary, Belleville et ailleurs au Canada. Donc, il y en a un peu partout de ces reliques, justement, du 11 septembre. Il y a à Haïti une communauté de sourds et muets qui est ébranlée. Alors, construit dans le but d'en faire un endroit de sécuritaire pour les sourds et muets, le village de L'Évêque en Haïti est toujours sous le choc après les meurtres de trois femmes sourdes au mois de mars. Les assassinats de Vanessa Préville, Monique Vincent et Jésula Gélin, tuées sur leur chemin de retour en provenance de la capitale Port-au-Prince, rappellent que certains groupes sont encore victimes de préjugés et de superstitions dans ce pays des Antilles. Construit par l'organisation religieuse américaine Mission of Hope, après le tremblement de terre qui a dévasté Haïti il y a 6 ans, le village de L'Évêque est devenu un lieu de tolérance pour les sourds et muets qui occupent une grande partie des 615 maisons. On a encore des préjugés. On croyait que les dames qui ont été, entre autres, assassinées étaient des loups-garous, donc une communauté de sourds et muets ébranlée en Haïti. Écoutez, c'est spécial ce village, justement, en Haïti, pour les sourds et muets qui il y a eu des meurtres, etc., et des légendes et surtout des préjugés. C'est pas drôle. Du côté, maintenant, du monde en bref, dans la presse, pèlerinage à la Mecque. Les pèlerins se préparent au rituel de la lapidation. Alors, il y a plus de 1,8 million de musulmans qui se sont rassemblés hier sur le mont Arafat pour l'étape la plus importante du grand pèlerinage de la Mecque, endeuillé l'année dernière par la pire tragédie de son histoire. Au Kenya, il y a 3 femmes qui ont été tuées après une attaque sur un poste de police. Toujours dans la presse, en Catalogne, des milliers d'indépendantistes déferlent à Barcelone. Et c'est des centaines de milliers qui ont déferlé dans les rues de Barcelone pour démontrer leur appui à la cession avec l'Espagne, qui serait séparée de sa région la plus riche. Dans Le Devoir, la Syrie, les bombardements continuent avant l'entrée en vigueur de la trêve. Pyongyang veut être reconnue comme une puissance nucléaire militaire. La Corée du Nord a demandé dimanche à être reconnue par les États-Unis comme une puissance nucléaire militaire à part entière après son 5e essai nucléaire, auquel Washington, Tokyo et Séoul veulent riposter par la plus grande fermeté. En France, de quoi faire peur, un jeune de 16 ans qui planifiait un attentat arrêté, imaginez-vous. Tiens, belle visibilité, c'est international, pourquoi pas, on va aller légèrement là-dessus. Au tennis, hein, le jeune Félix Auger-Aliassime a vaincu la 5e tête de série et puis il a remporté le volley junior de l'US Open. C'est de cette façon légère qu'on peut faire briller ce jeune Québécois. Ah, ça, c'est une musique qui est légère, qui nous fait du bien en grande pompe. Les arts, maintenant, culture dans les journaux. Dans la presse, dans le cadre du Festival des films de Toronto, en première page, demander pardon. De vieilles allégations d'agression sexuelle ont troublé la fête entourant The Birth of a Nation. Et on en parle, justement. Je vous en parle dans quelques instants. Et puis, l'album des 50 ans, on parle de musique de Linda Lemay. Je vous en parle dans quelques instants. C'est particulier, c'est sous la plume de Marc Cazivi, demandez pardon. On trouve à l'extrême gauche de la table de conférence, il y avait Nate Parker, auteur, réalisateur, producteur et principal acteur de The Birth of a Nation. C'est le titre le plus médiatisé du 41e Festival international du film de Toronto. Pour des raisons qui ne tiennent pas qu'au cinéma, écoutez bien, et quasi à l'extrême droite, il y avait Gabrielle Union, actrice qui incarne une femme violée dans ce film sur une rébellion d'esclaves au début du 19e siècle. Alors, à gauche, c'est le comédien accusé de viol sur un campus universitaire à 19 ans. Il a été innocenté alors que le co-scénariste de Birth of a Nation, Jean Célestin, a été reconnu coupable en première instance avant d'être acquitté. À droite, il y a une comédienne qui, elle, violée dans le magasin de chaussures où elle travaillait, pistolet à la tempe, à 19 ans, elle aussi. Donc, c'est on va entendre parler de ce film, The Birth of a Nation, et surtout de la controverse autour des gens qui... acteurs, réalisateurs, producteurs qui tournent autour. En musique maintenant, on va Linda Lemay. J'étais surprise d'apprendre. Elle a 50 ans. Et comme quoi, tout le monde vieillit, hein? Elle est une machine à idées, affirme Claude Mégot-Lemay, co-réalisateur de son nouvel album de Linda Lemay, Décibels et des silences, qui sort le 23 septembre prochain. Alors, Mégot, l'ex-directeur musical de Céline, Dion ne blague pas, la chanteuse est arrivée en studio avec 50 à 60 chansons de son cru, la plupart récentes, mais aussi d'autres qu'elle avait dans ses tiroirs depuis les années 90. Alors, à retenir, le titre de son nouvel album, Décibels et des silences, le 23 septembre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit tous les deux, Linda Lemay et Claude Mégot-Lemay, ensemble, en photo. Puis ça, en même temps, c'est une occasion de parler de Mégot. Il a fait appel à trois musiciens qui ont été virés en même temps que lui de l'équipe de Céline Dion l'an dernier. Il s'agit, entre autres, le guitariste André Coutu, le clavier claviériste et programmateur Yves Frula et le violoniste Jean-Sébastien Carré. Ce n'est pas parce qu'ils étaient avec Céline Lance Mégot. Ce sont des amis talentueux que je connais tellement que je sais qu'ils vont apporter du positif. Et depuis qu'il ne fait plus partie du team de Céline, Mégot a pris le temps de s'installer au Québec avec sa femme et ses deux jeunes enfants. Et sur le plan professionnel, il a co-réalisé le nouvel album de Linda Lemay et a signé ces dernières années des orchestrations pour Angèle Dubeau et La Pietà. Alors, il n'est pas peu fier de m'apprendre que Sean Phillips a accepté de jouer à la récente fête de la musique de Tremblant parce qu'il avait aimé son orchestration de sa chanson « A Woman » sur l'album Blanc d'Angèle Dubeau. Donc, c'est une belle rencontre. Linda Lemay et Claude Lemay, aucunement parents ensemble, mais en même temps, ben, pour la sortie du nouvel album de Linda Lemay. Avez-vous écouté hier soir Le Banquier? Ben écoutez, si vous étiez du groupe, elle avait une invitée spéciale, Julie Snyder, Kathleen Jenner, qui a volé la vedette d'une émission du Banquier qui réunissait plusieurs anciens olympiens québécois comme Sylvie Fréchette, Alexandre Bilodeau et Annie Pelletier pour souligner justement le 40e anniversaire des Jeux olympiques qui ont eu lieu en 1976. Alors, autant vous dire qu'hier, Kathleen Jenner, a obtenu la médaille d'or au décathlon aux Jeux olympiques de 76 sous le nom de Bruce Jenner. Bon, on parle de festival de Toronto. Falardeau, Philippe Falardeau séduit de nouveau Toronto. Le Québécois a présenté tous ses films depuis 2000. Alors, c'est une belle longue histoire d'amour qu'a Philippe Falardeau dans le cadre de ce festival de Toronto. Et ben, il y a aussi la présence de l'actrice australienne qui est Nicole Kidman, qui est émouvante et qui, justement, a présenté un film. Et elle dit que le film dans lequel elle joue porte sur le pouvoir de l'amour d'une mère. Je disais à Jean-Sébastien, déjà, c'est déjà l'heure des régionaux et je vais aller vous chercher cela parce que je vais sur mon iPad puis c'est plus long. Alors, je me lance, je me dirige. Les régionaux, j'ai des informations intéressantes. On va aussi parler, entre autres, de Patrick Zabé. Je vais vous apprendre quelques nouvelles le concernant. Et puis, mais avant cela, je vais tout de suite aller du côté du journal Le Droit. L'histoire du centre-ville de Hull, c'est l'histoire de plusieurs centres-villes en Amérique du Nord où tout est voué à l'auto et où l'environnement n'est plus fait pour s'y promener et profiter des espaces publics. Et on parle de l'optimisation du centre-ville et l'auteur est le directeur du Conseil régional en environnement et développement durable de l'Outaouais, Benoît Delage. Alors, en d'autres termes, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est que la prédominance de l'automobile a transformé l'environnement urbain au détriment de la vie de quartier que l'on connaissait jadis, justement. Les répercussions sont tangibles. On le sait tous, même plus près de chez nous, hein, les commerces ont de la difficulté à y survivre et les services de proximité pour les habitants sont rares et nous, dans les quartiers, on le sait ici. Cette problématique est alimentée par l'abondance de stationnements de surface disponibles au centre-ville. Dans les faits, nos voitures sont utilisées que 5 % du temps. Elles doivent donc être stationnées quelque part pendant les 95 % du temps où elles n'est pas utilisées. Alors, face à ce constat, il n'est pas surprenant de constater la présence de nombreuses aires de stationnement à la disposition des fonctionnaires travaillant au centre-ville pour répondre à leurs besoins de mobilité. C'est quoi le résultat de tout ça? Ben, après les heures normales de bureau, le centre-ville de Hull semble presque inhabité. Ce sont des déserts. Pas d'auto, c'est un désert. La demande est tellement grande que, voyant dans cette situation une opportunité de faire de l'argent, plusieurs citoyens louent illégalement leurs cours arrière à des fins de stationnement. C'est comme ça notre façon de voir le quartier. Ce type d'usage est considéré illégal puisque dans un terrain avec un zonage résidentiel, il est interdit de réaliser une activité commerciale comme louer un stationnement. Louer un stationnement est une activité commerciale. Travailler en l'environnement, c'est entre autres travailler pour l'optimisation des ressources. Et en contexte urbain, elles peuvent prendre plusieurs formes, l'énergie, un terrain, nos véhicules ou encore même nos ordures. Alors, un stationnement de surface est le pire usage que l'on peut imaginer en termes d'utilisation et d'appropriation de l'espace dans un centre-ville, revenus de taxes, développement socio-économique, problématiques environnementales, etc. Alors, c'est l'optimisation du centre-ville, mais à quel prix? Alors, c'est sous la plume de Benoît Delage dans le journal Le Droit. Ça m'a intriguée, et c'est dans le journal La Tribune, c'est un 15e rendez-vous d'Howard Pailleté. Qu'est-ce que c'est ça? Ça m'a vraiment intriguée, donc je vais vous en parler, c'est à Sherbrooke. Paillettes sur les robes plumes, le parc du domaine Howard a été transporté dans les années folles ce week-end alors que se tenait la 15e édition du rendez-vous d'Howard. Est-ce que vous y étiez? Je ne sais pas, mais moi je trouve ça intéressant. Bien que vendredi et samedi aient été des journées records en termes d'achalandage, selon les organisateurs de l'événement, la foule se faisait plutôt dispersée, bien évidemment en raison hier de la pluie qui assombrit le paysage en matinée et aussi les forts vents qui faisaient s'envoler les chapeaux d'époque en après-midi. Alors, si le beau temps s'était maintenu hier, ben, je pense qu'on aurait eu un plus grand achalandage. Mais considérant la météo d'aujourd'hui, je crois que ça va être environ l'équivalent de l'année dernière. On a à peu près 15 à 20 000 personnes qui s'y rendent. C'est ce que dit, nous révèle la présidente fondatrice de l'événement, Chantal L'Espérance, vêtue d'une élégante robe dorée et d'un grand boa de plumes rouges. Elle dit même qu'elle a dû hier doubler son boa pour avoir un peu plus chaud parce qu'il faisait pas chaud. L'une des activités les plus courues parmi celles qui sont proposées cette année dans le cadre de ce festival au Domaine Howard, c'est les causeries dans la Maison Bleue avec Cécile Couture-Vanier, la petite fille de celui qui a été le menuisier et jardinier du sénateur Howard pendant plus de 40 ans. Alors, Céline Vanier-Couture est née dans cette maison et elle la faisait visiter aux gens et ça n'a pas dérougi de la fin de semaine. Maison rouge, puis bleue. Il faut dire que cette petite maison bleue, qui était rouge d'abord, est le premier bâtiment de tout le domaine, de ce grand domaine Howard. Et explique un comédien qui était là. Alors, quand on a acheté le terrain en 1913, on a construit cette maison qui était en bois. Et c'est là qu'on venait passer du bon temps dans la forêt. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de faire un domaine et des résidences qu'on a commencé à construire en 1917. Alors, c'est les festivités au cœur des somptueux jardins. Ce serait visiter les beaux jardins de ce domaine Howard. Se sont terminés dimanche avec le spectacle de clôture qui mettait en vedette le sénateur Howard ainsi que sa deuxième épouse, une cantatrice new-yorkaise, partageant leurs chansons préférées de la belle époque. Et celui qui jouait le rôle, je suis toujours heureux de voir ce qu'il y a plein de gens qui découvrent la fête pour la première fois. Alors, c'est dans le cœur du personnage de M. Howard. C'est du bonheur de dire Éric Langlois et peut-être que pour vous l'an prochain, ce sera un rendez-vous si vous allez dans le coin de Sherbrooke. « Dans la tribune, encore, écoutez, c'est après avoir pu goûter la première place du bout des lèvres lors du concours L'Étoile montante Ford de la plus récente édition des Francofolies de Montréal, qui a terminé deuxième à la suite d'une délibération ex aequo, la formation Rose Bush a enfin pu savourer une victoire en remportant samedi la sixième édition de Sherbrooklyn. Avec sa musique indie pop alternative, la formation Rose Bush a prouvé en grande finale de la plus généreuse compétition musicale de la région. Pour les chansons francophones, peuvent être tout aussi branchées que celles écrites en la langue de Shakespeare. Alors, invitant les spectateurs et le jury dans un univers à la fois enveloppant et rythmé, dont les arrangements musicaux rappelaient parfois ceux du groupe Montréal Groenland, les cinq membres de Rose Bush ont su se distinguer des trois autres bandes finalistes grâce à son son unique et une aisance remarquable sur scène. La chanteuse de la jeune formation, Danica Boileau-Bonaduce, semblait flotter sur scène alors qu'elle entonnait avec émotion, accompagnée de son accordéon, en attente, avec la chanson-titre « En attente de toi », une chanson à laquelle a collaboré nul autre que Yann Perreau. Alors, dans le journal Le Soleil, on dévoile le secret de Patrick Zabé qui a la maladie de Parkinson. Après avoir brisé le silence sur son état de santé, Jean-François Néron nous dit que le chanteur Patrick Zabé consacre maintenant une partie de son temps comme ambassadeur de Parkinson Québec. Il veut faire la preuve qu'il est possible de vivre malgré la maladie. D'entrée de jeu, le populaire artiste qui a connu ses heures de gloire dans les années 60 et 70 reconnaît avoir eu du mal à accepter le diagnostic. J'en avais jamais parlé. À la force de me faire tourmenter par ma femme et ma fille, j'ai accepté de dévoiler mon état, raconte M. Zabé, un brin d'humour dans la voix, au départ d'une marche dimanche au profit de Parkinson Québec. Sa fille Kim Rosk, animatrice et femme d'affaires, l'épaule dans son rôle d'ambassadeur. Elle dit « On veut faire connaître la cause. Mon père est un exemple d'une personne qui, malgré la maladie, continue d'avancer dans la vie. Et c'est un battant. » À l'image de ses chansons guillerettes, M. Zabé refuse de se laisser abattre et il continue d'être actif. Il participe même sur scène à la tournée des Idoles avec d'autres chanteurs de sa génération. Alors, pour le président de Parkinson Région de Québec, Philippe Thomassin, l'attitude de Patrick Zabé devant cette maladie dégénérative est le modèle à adopter. C'est prouvé que l'activité physique aide à garder l'autonomie. C'est salutaire pour une personne atteinte de Parkinson. C'est pourquoi une grande partie de l'argent recueilli permet de faire de l'accompagnement auprès de personnes atteintes. C'est un choc qui est difficile à encaisser. L'organisme les aide à s'inscrire dans des cours de yoga ou d'autres activités qui les gardent actifs. Monsieur Zabé se fait un devoir quotidien de pratiquer une activité physique. Sa fille dit « Lorsque tu apprends que tu as une maladie, que tu as la maladie, c'est un choc en soi. » Et c'est pour ça que l'organisme veut peu informer et diriger vers l'entraide appropriée. Et grâce à Parkinson Québec, justement, c'est possible. On rencontre aussi d'autres personnes qui vivent la même situation, donc ça peut enlever un peu de poids sur les épaules. Pour moi, c'était un secret. Ça faisait 8 ans que j'étais atteinte avant de le faire connaître au public, mais c'était la bonne décision de dire M. Zabé. J'ai reçu un courriel récemment d'une dame dont le mari a été déclaré malade du Parkinson. Elle expliquait que ça les encourageait de voir des gens comme nous réussir à accepter les affres de la maladie. Donc, c'est un secret, ce n'est plus un secret pour personne. Il est un modèle maintenant, M. Patrick Zabé, qui a ouvert son cœur en nous disant que oui, il a la maladie de Parkinson. Et c'est sur cette note de battant que se termine aujourd'hui notre émission, votre émission, Les Voix de service de ce lundi 12 septembre. Et on se retrouve demain, mardi. Profitez du beau temps aujourd'hui. Au revoir.